Somnifère, le podcast.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 11 mai et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui s'en va seul faire une cure thermale dans une petite commune d'Auvergne. Si la région lui semble très ennuyante au premier abord, son séjour va vite prendre une tournure inattendue. C'est une nouvelle de Maupassant intitulée « Mes 25 jours ». Je vous souhaite une excellente nuit. Et maintenant, place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Je vais vous demander dans un premier temps de porter votre attention sur votre visage et d'en relâcher tous les petits muscles. Ceux de la mâchoire. Ceux du front, ceux de la lèvre supérieure et de la bouche, l'espace entre vos deux sourcils. Les paupières. Assurez-vous que votre visage soit entièrement relâché. À présent, laissez cette détente se manifester par une couleur que vous trouvez agréable, le violet par exemple, et se propager progressivement au reste de votre corps, en commençant par la nuque, le cou et les épaules, pour descendre lentement, progressivement, et arriver jusqu'à la pointe de vos pieds. Je vous laisse quelques instants pour laisser cette détente se propager et porter simplement votre attention sur votre corps. À présent que votre corps est entièrement détendu, portez simplement votre attention sur votre respiration. En observant simplement la manière dont votre corps inspire et expire. Les mouvements que cela provoque. Les variations de température à l'inspire et à l'expire. Observez simplement le flux de votre respiration, calmement, en douceur. observez les appuis de votre corps avec le matelas. Et appréciez le fait d'être simplement là, dans le calme, en paix. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sentez comme la détente s'installe davantage à chaque expire. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
Maupassant, mes 25 jours. Je venais de prendre possession de ma chambre d'hôtel, case étroite entre deux cloisons de papier qui laissent passer tous les bruits des voisins. Et je commençais à ranger dans l'armoire à glace mes vêtements et mon linge, quand j'ouvris le tiroir qui se trouve au milieu de ce meuble. J'aperçus aussitôt un cahier de papier roulé. L'ayant déplié, je l'ouvris et je lus ce titre. Mes 25 jours. C'était le journal d'un baigneur, du dernier occupant de ma cabine, oublié là à l'heure du départ. Ces notes peuvent être de quelque intérêt pour les gens sages et bien portants qui ne quittent jamais leur demeure. C'est pour eux que je les transcris ici, sans en changer une lettre. Châtel-Guyon, 15 juillet. Au premier coup d'œil, il n'est pas gai, ce pays. Donc je vais y passer 25 jours pour soigner mon foie, mon estomac, et maigrir un peu. Les 25 jours d'un baigneur ressemblent beaucoup aux 28 jours d'un réserviste. Ils ne sont faits que de corvées, de dures corvées. Aujourd'hui, rien encore, je me suis installé, j'ai fait connaissance avec les lieux et avec le médecin. Châtel-Guyon se compose d'un ruisseau où coule de l'eau jaune, où sont plantés un casino, des maisons et des croix de pierre. Au bord du ruisseau, au fond d'un vallon, on voit un bâtiment carré entouré d'un petit jardin. C'est l'établissement de bains. Des gens tristes errent autour de cette bâtisse, les malades. Un grand silence règne dans les allées ombragées d'arbres, car ce n'est pas ici une station de plaisir, mais une vraie station de santé. On s'y soigne avec conviction et on y guérit, paraît-il. Des gens compétents affirment même que les sources minérales y font de vrais miracles. De temps en temps, un monsieur ou une dame s'approche d'un kiosque coiffé d'ardoises qui abrite une femme de mine souriante et douce et une source qui bouillonne dans une vasque de ciment. Pas un mot n'est échangé entre le malade et la gardienne de l'eau guérisseuse. Celle-ci tend à l'arrivant un petit verre où tremblotent des bulles d'air dans le liquide transparent. L'autre boit et s'éloigne d'un pas grave pour reprendre sous les arbres sa promenade interrompue. Aucun bruit dans ce petit parc. Aucun souffle d'air dans les feuilles, aucune voix ne passe dans ce silence. On devrait écrire à l'entrée de ce pays, ici on ne rit plus, on se soigne. Les gens qui causent ressemblent à des muets qui ouvriraient la bouche pour simuler des sons, tant ils ont peur de laisser s'échapper leur voix. Dans l'hôtel, même silence. C'est un grand hôtel où l'on dîne avec gravité entre gens comme il faut, qui n'ont rien à se dire. Leur manière révèle le savoir-vivre, et leur visage reflète la conviction d'une supériorité dont il serait peut-être difficile à quelques-uns de donner des preuves effectives. À 2 heures, je fais l'ascension du casino, petite cabane de bois perchée sur un monticule où l'on grimpe par des sentiers de chèvres. Châtel-Guyon se trouve placé dans un vallon très étroit, juste entre la plaine et la montagne. J'aperçois donc à gauche les premières grandes vagues des monts Auvergnats couverts de bois, et montrant par places de grandes taches grises, leurs durs ossements de lave, car nous sommes au pied des anciens volcans. À droite, par l'étroite échancrure du vallon, je découvre une plaine infinie comme la mer, noyée dans une brume bleuâtre qui laisse seulement deviner les villages, les villes, les champs jaunes de blé mûr et les carrés verts des prairies ombragées de pommiers. C'est la Limagne, immense et plate, toujours enveloppée dans un léger voile de vapeur. Le soir est venu. Et maintenant, après avoir dîné solitaire, j'écris ces lignes auprès de ma fenêtre ouverte. J'entends là-bas en face le petit orchestre du casino qui joue des airs, comme un oiseau fou qui chanterait tout seul dans le désert. Un chien aboie de temps en temps. Ce grand calme fait du bien. Bonsoir. 16 juillet. Rien. J'ai pris un bain, plus une douche. J'ai bu 3 verres d'eau et j'ai marché dans les allées du parc, un quart d'heure entre chaque verre, plus une demi-heure après le dîner. J'ai commencé mes 25 jours. 17 juillet. Remarquez deux jolies femmes qui prennent leur bain et leur repas après tout le monde. 18 juillet. Rien. 19 juillet. Revue les deux jolies femmes. Elles ont du chic et un petit air je ne sais quoi qui me plaît beaucoup. 20 juillet. Longue promenade dans un charmant vallon boisé jusqu'à l'ermitage de Sans Souci. Ce pays est délicieux, bien que triste, mais si calme, si doux, si vert. On rencontre par les chemins de montagne les voitures étroites chargées de foin que de vaches traînent d'un pas lent ou retiennent dans les descentes avec un grand effort de leurs têtes liées ensemble. Un homme coiffé d'un grand chapeau noir les dirige avec une mince baguette en les touchant au flanc ou sur le front. Et souvent, d'un simple geste, d'un geste énergique et grave, il les arrête brusquement quand la charge trop lourde précipite leur marche dans les descentes trop dures. L'air est bon à boire dans ces vallons. Et s'il fait très chaud, la poussière porte une légère et vague odeur de vanille et d'étable, car tant de vaches passent sur ces routes qu'elles y laissent partout un peu d'elles. Et cette odeur est un parfum, alors qu'elle serait une puanteur venue d'autres animaux. 21 juillet. Excursion au vallon d'Enval. C'est une gorge étroite enfermée en des rochers superbes au pied même de la montagne. Un ruisseau coule au milieu des rocs amoncelés. Comme j'arrivais au fond de ce ravin, j'entendis des voix de femmes. Et j'aperçus bientôt les deux dames mystérieuses de mon hôtel qui causaient assises sur une pierre. L'occasion me parut bonne et je me présentai sans hésitation. Mes ouvertures furent reçues sans embarras. Nous avons fait route ensemble pour revenir. Et nous avons parlé de Paris. Elles connaissent, paraît-il, beaucoup de gens que je connais aussi. Qui est-ce? Je les reverrai demain. Rien de plus amusant que ces rencontres-là. 22 juillet. Journée passée presque entière avec les deux inconnues. Elles sont, ma foi, fort jolies, l'une brune et l'autre blonde. Elles se disent veuves. Je leur ai proposé de les conduire à Roya demain matin et elles ont accepté. Châtel-Guyon est moins triste que je n'avais pensé en arrivant. 23 juillet. Journée passée à Roya. Roya est un pâté d'hôtel au fond d'une vallée à la porte de Clermont-Ferrand. Beaucoup de monde. Grand parc plein de mouvement. Superbe vue du Puy-de-Dôme aperçue au bout d'une perspective de vallon. On s'occupe beaucoup de mes compagnes, ce qui me flatte. L'homme qui escorte une jolie femme se croit toujours coiffé d'une auréole. À plus forte raison celui qui passe entre deux jolies femmes. Rien ne plaît autant que dîner dans un restaurant bien fréquenté avec une amie que tout le monde regarde. Et rien d'ailleurs n'est plus propre à poser un homme dans l'estime de ses voisins. Montrer au monde une jolie femme à son bras, c'est exciter d'un seul coup toutes les jalousies. C'est dire « j'ai du goût, puisque j'ai su trouver cette perle. Peut-être même en suis-je aimé, à moins que je ne sois trompé par elle, ce qui prouverait encore que d'autres aussi la jugent charmante. » 24 juillet. Je ne quitte plus les deux veuves inconnues que je commence à bien connaître. Ce pays est délicieux et notre hôtel excellent. Bonne saison. Le traitement me fait un bien infini. 25 juillet. Promenade en landau au lac de Tasna. Partie exquise et inattendue, décidée en déjeunant. Départ brusque en sortant de table. Après une longue route dans les montagnes, nous apercevons soudain un admirable petit lac, tout rond, tout bleu, clair comme du verre, et gîté dans le fond d'un ancien cratère. Un côté de cette cuve immense est aride, l'autre boisée. Au milieu des arbres, une maisonnette où dort un homme aimable et spirituel, un sage qui passe ses jours dans ce lieu virgilien. Il nous ouvre sa demeure. Une idée me vient. Je crie. Si on se baignait ? Oui, dit-on, mais des costumes. Bah, nous sommes au désert. Et on se baigne. Si j'étais poète, comme je dirais cette vision inoubliable des corps jeunes et nus dans la transparence de l'eau. La côte inclinée et haute enferme le lac immobile, luisant et rond comme une pièce d'argent. Le soleil y verse en pluie sa lumière chaude, et le long des roches, la chair blonde glisse dans l'onde presque invisible où les nageuses semblent suspendues. Sur le sable du fond, on voit passer l'ombre de leurs mouvements. 26 juillet. Quelques personnes semblent voir d'un œil choqué et mécontent mon intimité rapide avec les deux veuves. Il existe donc des gens ainsi constitués qu'ils s'imaginent la vie faite pour s'embêter. Tout ce qui paraît être amusement devient aussitôt une faute de savoir-vivre ou de morale. Pour eux, le devoir a des règles inflexibles et mortellement tristes. Je leur ferai observer avec humilité que le devoir n'est pas le même pour les Mormons, les Arabes, les Zoulous, les Turcs, les Anglais ou les Français, et qu'il se trouve des gens fort honnêtes chez tous ces peuples. 27 juillet. Bonne nouvelle, j'ai maigri de 620 grammes. Excellente, cette eau de Châtel-Guyon. J'emmène les veuves d'Inérarium, triste ville dont l'anagramme constitue un fâcheux voisinage pour des sources guérisseuses, Rium, Mori. 28 juillet. Patatras, mes deux veuves ont reçu la visite de deux messieurs qui viennent les chercher. Deux veufs, sans doute. Elles partent ce soir. Elles m'ont écrit sur un petit papier. 29 juillet. Seul. Longue excursion à pied à l'ancien cratère de la Nachère. Vue superbe. 30 juillet. Rien. Je fais le traitement. 31 juillet. Dito. Ce joli pays est plein de ruisseaux infects. Je signale à la municipalité si négligente l'abominable cloaque qui empoisonne la route en face du grand hôtel. On y jette tous les débris de cuisine de cet établissement. C'est là un bon foyer de choléra. 1er août. Rien. Le traitement. 2 août. Admirable promenade à Châteauneuf, station de rhumatisants où tout le monde boite. Rien de plus drôle que cette population de béquillards. 3 août. Rien. Le traitement. 4 août. Dito. 5 août. Dito. 6 août. Désespoir. je viens de me peser. J'ai engraissé de 310 grammes. Mais alors, 7 août, 66 kilomètres en voiture dans la montagne. Je ne dirai pas le nom du pays par respect pour ces femmes. On m'avait indiqué cette excursion comme belle et rarement faite. Après 4 heures de chemin, j'arrive à un village assez joli au bord d'une rivière, au milieu d'un admirable bois de noyers. Je n'avais pas encore vu en Auvergne une forêt de noyers aussi importante. Elle constitue d'ailleurs toute la richesse du pays, car elle est plantée sur le communal. Ce communal, autrefois, n'était qu'une côte nue couverte de broussailles. Les autorités essayèrent en vain de le faire cultiver. C'est à peine s'il servait à nourrir quelques moutons. C'est aujourd'hui un superbe bois et il porte un nom bizarre. On le nomme les péchés de Monsieur le Curé. Or, il faut dire que les femmes de la montagne ont la réputation d'être légères, plus légères que dans la plaine. 7 août. Traitement. 8 août. Je fais mes mâles et mes adieux au charmant petit pays tranquille et silencieux, à la montagne verte, au vallon calme, au casino désert d'où l'on voit toujours voiler de sa brume légère et bleuâtre l'immense plaine de la Limagne. Je partirai demain matin. Le manuscrit s'arrêtait là. Je n'y veux rien ajouter, mes impressions sur le pays n'ayant pas été tout à fait les mêmes que celles de mon prédécesseur, car je n'y ai pas trouvé les deux veuves.
Bonne nuit. Bonne nuit.